Je vous invite à entendre l'un des trois textes pour aujourd'hui dans Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 à 30.
À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les a révélées aux enfants. Oui, Père, je suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne ne connaît non plus le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger.
Il y a toujours des textes dans la Bible qui semblent appartenir à une autre époque. Nous tombons souvent sur ces textes avec un sentiment de décalage assez fort. Les mots paraissent éloignés de nos préoccupations, les images utilisées sont devenues complètement étrangères, pas juste exotiques, vraiment étrangères, vraiment loin de nous. Les expressions demandent un intense effort d'interprétation, un vrai travail. Des textes qui ne nous laissent pas en repos, si vous préférez. Mais il arrive quand même que dans ces textes, qui paraissent loin, une intuition, quelque chose qui se perçoit comme ça à la simple lecture, arrive à se frayer un passage à travers le mur de l'exotisme, justement. Il passe quelque chose, quand même, malgré l'éloignement. Ce passage de Matthieu, celui que nous venons de relire, justement, à l'instant, est de cela, justement. Il ne parle pas d'abord d'un au-delà. Le repos dont il est question, ce n'est pas le repos des braves ou le repos éternel. Pas encore. Ça vient toujours, mais nous ne sommes pas pressés, et ce n'est pas de cela que Jésus parle. C'est de ce qui précède ce repos-là. Il y a aussi d'autres formes de repos auxquelles nous devons réfléchir avant ce repos-là. Il n'est pas non plus question d'une doctrine ou d'une identité religieuse, il est question d'autre chose, d'une expérience assez universelle, la fatigue. Pas seulement celle qui vient du travail, mais aussi une certaine forme d'usure, une certaine manière d'habiter le monde qui nous use et nous fatigue. C'est peut-être de ça aussi qu'il est question dans ce texte. Cette lassitude qui s'installe quand la vie devient une longue litanie d'obligations, de compétitions, de comparaisons, d'inquiétudes, d'efforts pour correspondre tant bien que mal à ce qu'on attend de nous. C'est un certain type de fatigue. Et ça n'est pas celle d'une journée bien remplie seulement. Jésus ne commence pas par proposer une réponse, mais il pose au moins un diagnostic. Quelque chose dans notre manière de comprendre la vie nous conduit à nous épuiser. Il faudrait que chacun fouille sa propre vie pour savoir ce qui le fatigue le plus et pas à bon escient. C'est à cet exercice-là que nous sommes invités. Quelque chose dans notre manière de comprendre la vie, de la conduire, nous fatigue. Nous croyons souvent que la difficulté vient des circonstances. Si notre travail était moins exigeant, les relations un peu plus simples, la santé plus stable aussi, l'avenir plus rassurant, si tout ça était réuni, nos vies seraient un peu plus reposantes ou reposées. Mais les conditions extérieures n'expliquent pas tout. Il y a ce qu'il faut affronter, et puis il y a notre manière d'affronter ce qui vient aussi, et il y a tout autant à regarder de notre côté qu'à l'extérieur. Deux personnes confrontées à une même situation peuvent la traverser autrement, après tout. Nous sommes tous différents. Une même personne peut traverser les mêmes circonstances différemment aussi, selon le moment. La différence n'est pas dans la manière de les comprendre, ou plutôt de les accueillir, et d'y répondre. C'est ça qui fait la différence, c'est cette confrontation entre nous et ce qui nous arrive. C'est peut-être le sens d'ailleurs de la première affirmation, ce qui reste caché aux sages et révélé aux tout petits. Il faut toujours se demander de qui il s'agit, si c'est d'une tranche d'âge qu'il s'agit, ou de quelque chose d'autre. Pendant longtemps, on a cru que Jésus opposait le savoir à la simplicité. Voilà, il ne faut pas réfléchir, il faut faire les choses simplement, et puis ça ira mieux. C'est quand même une idée bizarre pour quelqu'un qui a passé autant de temps que lui à discuter, interroger et faire réfléchir. Ce serait étonnant d'en faire l'apôtre de la non-réflexion. Jésus n'a jamais condamné l'intelligence, il a simplement critiqué une certaine manière de l'utiliser. Ce n'est pas la même chose. Il existe une intelligence qui cherche avant tout à maîtriser. Elle est très utile d'ailleurs. C'est celle qui classe, qui découpe, qui range dans des petites boîtes et qui fait qu'on retrouve les choses quand on est un petit peu ordonné. Quand on les cherche, quand on a besoin d'elles, c'est utile, mais ça ne fait pas tout. Mais peut-être que comprendre ici, c'est autre chose. Ce n'est pas enfermer la réalité dans des catégories rassurantes. Il existe peut-être d'autres formes d'intelligence, une autre au moins, plus discrète, et qui commence par reconnaître que ce à quoi nous faisons face est toujours un peu plus grand, un peu plus complexe que l'idée qu'on s'en fait. Les tout-petits sont peut-être justement ceux-là, ceux qui sont capables de déployer cette forme d'intelligence, d'être encore capable d'apprendre. Nous interprétons les situations à travers un bagage assez lourd, c'est déjà un fardeau que nous transportons. Les habitudes, les préjugés, les échecs accumulés qui déteignent sur ce qu'on veut entreprendre par la suite, parce qu'on a peur, évidemment. Je me suis déjà planté une fois, quid de la prochaine ? Ça déteint comme de l'encre sur un buvard, ça contamine ce qu'on essaie de faire, les échecs passés. Voilà, autant de fardeaux que nous trimballons avec nous. Nous imaginons les intentions des autres avant même de les avoir écoutées, pour se faciliter la tâche, mais après il faut double ou triple du temps ou du travail pour arriver à les comprendre. Nous ne nous facilitons pas les choses. Nous poursuivons des objectifs qui nous ont été suggérés, souvent, qui ne sont pas forcément les nôtres, nous ne les avons pas totalement choisis, ou pas du tout, parfois. Notre vie s'organise autour de critères qui ne sont pas toujours réexaminés. C'est coûteux de se dire, est-ce que je fais bien ce que je fais, ce que j'ai toujours fait? Est-ce que je dois changer? Combien ça va me coûter, tout ça? Pas facile. Et parce que nous ne réexaminons pas les choses, le résultat est connu, nous sommes toujours occupés, ça, nous ne manquons pas d'occupation, mais nous sommes rarement disponibles. Parce que trop occupé, justement. Nous faisons beaucoup de choses, mais en ne sachant pas toujours pourquoi nous le faisons ce que nous faisons, nous communiquons beaucoup, mais par des canaux multiples, sans être certains de ne pas perdre d'informations. Et c'est cette contradiction qui produit la fatigue, cet éparpillement. Pas la fatigue, encore une fois, d'une journée bien remplie, mais celle qui vient quand nous essayons de rester en un seul morceau sans toujours y arriver très bien. Eh bien, c'est à ce moment qu'arrive l'invitation de Jésus. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, des fardeaux que vous vous imposez. Pas de promesse magique, les difficultés ne disparaîtront pas, vous en aurez. Mais elle suggère autre chose, cette promesse. Il est possible de porter autrement ce que la vie nous demande de porter. Il y a toujours un poids à porter. Il n'y a pas les situations de vie où on est dans la lourdeur et puis des moments où on est enfin débarrassé de tout. Ça n'existe pas. Ça n'arrive jamais. Jésus suggère simplement ici qu'il est possible de porter autrement ce que la vie nous demande de porter. Une manière de vivre qui n'ajoute pas inutilement du poids au poids. Et là, ben, il faut un apprentissage. C'est pour ça qu'il dit « apprenez quelque chose de moi ».« Apprenez de moi ». Formule remarquable, il ne demande pas d'abord qu'on le célèbre, qu'on se mette à genoux devant lui, qu'on répète pieusement ses paroles. Il invite simplement à observer une manière d'exister. Regardez comment je rencontre des personnes. Regardez comment je traverse les conflits. Regardez comment j'écarte ce qu'on attend de moi pour faire ce que j'ai vraiment à faire. Regardez comment je reste libre face aux attentes des uns et des autres. Regardez tout cela. Apprenez de moi. Pas d'admiration, seulement l'imitation d'une attitude. Et cette attitude est décrite par deux mots souvent mal compris, la douceur et l'humilité. On en a fait grand cas de cette douceur et de cette humilité. Dans le langage courant, ça évoque quand même assez souvent la faiblesse et l'effacement. Voilà, il est humble et doux de cœur. Si vous cherchez du travail et qu'on cherche devant un recruteur à vous faire dire vos qualités pour occuper le poste, vous diriez tout un tas de choses, les compétences que vous mettriez en avant, comment vous vous débrouilleriez dans telle ou telle situation, vous mettriez des forces en avant, mais vous ne diriez certainement pas « je suis humble et doux de cœur hein ». Ou doux et humble de cœur, vous ne diriez pas ça, parce que votre candidature repasse sous la pile, c'est presque automatique. Pas des vertus donc, et pourtant c'est ce qu'on nous recommande ici. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il fallait être passif ou résigné. Lui qui a si bien su dire non, dénoncer et résister à beaucoup de choses, c'est tout sauf être mou et effacé. Sa douceur consiste à ne jamais laisser la violence des autres décider à sa place, même les pouvoirs, même les puissances qu'il a affrontées, et on sait avec quelle fin, avec quel risque il a décidé de faire face. Son humilité signifie qu'il n'a pas eu besoin, que nous n'aurions peut-être, nous aussi, pas besoin de faire de nous-mêmes le centre de tout. Il ne s'est pas occupé pendant tout son ministère à défendre son prestige. Il n'en avait rien à faire. Il y a de quoi nous faire réfléchir là-dedans. Nous qui passons beaucoup d'énergie à construire une image de nous-mêmes et qu'il faut réviser comme son CV. Il faut le réactualiser souvent. Nous voulons être reconnus, appréciés, compétents, originaux, performants. Quelle fatigue, quel fardeau. Même le repos lui-même finit par être soumis à des exigences de la performance. Je ne peux pas vous raconter ma vie, mais il se trouve que j'ai une machine qui m'aide à dormir pour l'apnée du sommeil et qui insuffle dans mes narines un souffle de vie. Vous voyez, un peu comme Adam. J'aime bien le parallèle. Je dors et le lendemain matin, cette machine est reliée à une application sur mon téléphone. La première chose que je fais en me réveillant, évidemment, c'est d'allumer mon téléphone, consulter cette application qui me donne une note pour la qualité de mon sommeil et qui, en plus, me donne des appréciations. Vous avez la note en haut de la page et dans les marges, en rouge, les appréciations du professeur. On est noté et évalué pendant son sommeil. Et on vous dit le lendemain matin, vous avez bien dormi, ou alors, si vous n'êtes pas 100%, ce qui m'arrive parfois, vous n'avez que 95 ou 96%. Ah oui, je vous ai enlevé 4%. Vous avez enlevé votre masque, il y a des fuites d'air, vous avez mal dormi. Vous avez mal dormi. Voilà, vous n'êtes pas 100%. Évaluer, même quand on essaie de se reposer, il faut optimiser son sommeil, sa respiration, parce que tout, même quand on n'est pas conscient de ce qu'on fait, doit être géré efficacement. Là encore, quelle fatigue. Il y a dans tout ce qu'on fait cette logique épuisante parce que notre valeur dépend du regard que d'autres posent sur nous, même si c'est une machine. Être noté, évalué, comparaison permanente, pas avec le sommeil de quelqu'un d'autre, dont je me contrefiche, mais avec le mien de la veille ou de la semaine d'avant ou du trimestre écoulé, il faut se comparer, regarder ses statistiques, si ça monte, si ça descend. Il y a des histogrammes, des courbes, il y a tout ce qu'il faut sur cette application. Quelle fatigue. Avancer moins en fonction de ce qui nous paraît juste, parce que ça déteint sur tout ce que nous faisons, et plutôt en fonction de ce qui sera reconnu par d'autres. C'est ça qui fatigue. D'être constamment sous le regard de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Dépendre d'approbations qui ne seront jamais suffisantes de toute manière. Il y aura toujours quelqu'un de plus brillant, plus riche, plus influent, plus apte à absorber des savoirs, plus doué, quelqu'un qui dort mieux que vous, même. Allez savoir. Jésus semble avoir abandonné la compétition. Il n'en a rien à faire. Il ne construit pas son autorité contre celle des autres, ça ne l'intéresse pas, et il n'a pas l'air d'être inquiet de sa réputation, c'est le moins qu'on puisse dire. Une seule question l'intéresse, et dans ce passage, et dans tout son ministère, au fond. Qu'est-ce qui fait réellement grandir la vie ? Tout semble découler de ce critère. Le reste est second, ou mauvais, peut-être. Lorsque le texte parle de joug, nous avons tous l'image de cette pièce de bois énorme qui repose sur le cou des bovins. Ce n'est pas une image plaisante. Elle nous dérange spontanément parce que nous associons ce mot à la contrainte. On ne leur a pas demandé leur avis à ces bestiaux. Mais il y a là-dedans un paradoxe très contemporain parce que nous portons tous quelque chose. Il n'y a pas ceux qui portent et ceux qui n'ont jamais rien apporté. Tout le monde a quelque chose à porter. Tout le monde a un joug. Personne ne vit sans objectif. Personne ne vit sans exigence. Mais la proposition de Jésus consiste à remplacer ces contraintes par une orientation plus simple. Non plus organiser sa vie autour de la comparaison, les notes, les appréciations, même avec soi-même, contre soi-même, mais autour de ce qui augmente réellement la qualité de notre vie. Non plus chercher à dominer les événements, mais les prendre comme ils viennent parce qu'on n'a pas le choix et apprendre à y répondre avec intelligence. C'est une autre manière de les affronter. C'est une forme d'intelligence qui ne supprime pas les limites ou les difficultés, mais qui transforme notre manière de les affronter. Elle évite en tout cas d'en faire des illusions. Elle ne promet ni santé parfaite, ni sécurité absolue, toutes ces choses qui n'existent pas, mais elle permet autre chose. Ne plus gaspiller son énergie à lutter contre ce qui ne dépend pas de nous. Nous avons beaucoup de mal à nous défaire de ça. Une grande partie de notre fatigue vient de cette résistance permanente. On peut n'avoir encore rien fait de ses projets de la journée, être déjà fatigué à cause de ça. Nous voudrions que le passé soit différent, trop tard, que les autres changent, pas facile, que le temps s'arrête, pas facile non plus. Il y en a un qui arrive à faire ça en levant les bras, en arrêtant le cours du soleil, mais c'est rarissime. Hein. N'essayez pas, ça ne marche pas. Je n'ai pas réussi à arrêter le cours du soleil. Certains voudraient que les pertes n'aient pas lieu, mais nous perdons toujours quelque chose. Enfin, c'est vraiment perdu d'avance, cette fatigue pour rien. Pas étonnant que nous soyons épuisés, peut-être parfois avant même d'avoir commencé. Mais si l'on suit bien ce qui nous est recommandé ici, il existe une liberté qui naît quand nous discernons clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ça fait déjà pas mal lâcher du lest. Nous ne choisissons pas toutes les circonstances de notre vie. Elles nous tombent dessus pour la plupart. En revanche, nous pouvons progressivement choisir la manière de les traverser. Ça, nous pouvons le faire. Cette capacité ne relève pas de la volonté seulement, il y a aussi de l'apprentissage. Voilà, c'est comme ça. Arrêter de vivre à partir de nos illusions, apprendre à regarder la réalité comme elle est, avec nos fragilités, nos limites, mais aussi avec des ressources inattendues, parfois venues, souvent même, des autres. C'est à ce moment-là que le mot « repos » prend un sens un peu nouveau. Ce n'est pas de l'inaction, ce n'est pas du « rien faire ». Il ne signifie pas que toute tension doive disparaître. Le repos, c'est l'expérience d'une vie qui retrouve son unité quand elle ne s'est pas épuisée à se morceler, à se détruire elle-même avant même de commencer son travail. Une existence qui cesse d'être dispersée entre mille injonctions contradictoires, faites ceci ou pas cela, ou c'était pour avant-hier, etc. Enfin, et puis vous êtes stoppé constamment. Et puis parfois c'est tellement intégré que vous n'avez même plus besoin qu'on vous le répète parce que ça ressort jusque dans votre sommeil d'ailleurs, parfois. Il faut que je fasse ci ou fasse ça. Certains se relèvent le matin en ayant une to-do list déjà faite. Pas besoin d'une machine pour vous aider à vous reposer. Hein. Une vie qui sait se défendre contre son propre émiettement, c'est ça qui nous est proposé ici. Qui ne dépend plus des fluctuations, des succès ou des échecs que nous rencontrons. De toute façon, il y en a dans les deux catégories. Une vie qui est capable de rester présente à ce qui est, sans nostalgie excessive du passé, hein, parce que c'est fait, ni inquiétude permanente pour l'avenir, une vie qui abandonne la maîtrise du déjà fait et l'angoisse du pas encore là. Ça, il faut y arriver quand même. C'est tout un travail, mais on est gagnant quand on y arrive. Il y a une manière d'habiter le monde que Jésus montrait dans sa manière de faire, de rencontrer les autres, de dire oui à certaines choses, non à d'autres, d'accepter des charges et de se dépouiller, de refuser certaines autres. Il avait cette économie-là, cette gestion des choses, d'une certaine manière. Et ça s'apprend, lentement. C'est un apprentissage qui demande de revisiter nos habitudes, nos projets, nos angoisses, qui demande surtout d'accepter que la liberté ne consiste pas à pouvoir tout faire. Nous aimerions tout faire. Quelle belle liste qu'un projet de vie d'église, par exemple, hein. Quel beau catalogue. Mais devenir, au contraire, suffisamment lucide pour ne plus être gouverné par tout ce qui nous disperse. Ça ne nous empêchera pas d'avancer dans ces projets de vie et de les mener à bien, à notre rythme. Un chemin de simplification intérieure, peut-être. C'est par là qu'il faut commencer avant de faire extérieurement et de mener des projets. Pas une simplification naïve qui ignorerait la complexité du monde et des projets que nous menons, qui sont parfois des usines à gaz, mais il faut bien tout mettre sur le papier, n'est-ce pas ? Une simplification qui consiste à distinguer peu à peu l'essentiel de l'accessoire. Il me semble que c'est là une actualité possible de ce texte qui ne nous invite pas à fuir le monde, mais à l'habiter autrement, qui ne nous demande pas d'être de meilleurs croyants, nous invite à voir autrement. Et ça repose déjà. Il ne promet pas une vie sans poids, mais il nous apprend à reconnaître les charges inutiles que nous ajoutons nous-mêmes aux difficultés inévitables. Il y en aura toujours. Il suggère qu'une vie devient plus légère, non pas parce qu'elle est plus facile, mais parce qu'elle est plus cohérente, moins éparpillée. La vraie légèreté, ce n'est jamais l'absence de responsabilité ou de projet. La vraie légèreté vient quand une personne cesse de vivre contre elle-même. Et c'est vrai pour une communauté aussi, qui peut s'épuiser à faire beaucoup de choses ou trop de choses, qui ne sait pas se reposer ou s'économiser. Quand elle découvre qu'il est possible d'être pleinement engagée dans le monde, sans devenir individuellement ou collectivement captif des exigences qui nous tiennent. Il faut aussi parfois se reposer, arrêter. Être dans le monde sans être du monde, formule connue, c'est peut-être ça justement. Pas de possession, pas de comparaison, pas de victoire sur les autres, pas de compétition, mais une vie petit à petit ajustée à ce qui la fait réellement grandir. C'est ça qu'il faut viser. Et c'est difficile. C'est un apprentissage, mais c'est pour ça que nous avons quelqu'un à suivre dans ce savoir si simple et si compliqué à acquérir, et que nous avons bien le temps de l'acquérir. Tout le temps, toute la vie. C'est cette expérience discrète mais profondément transformatrice que Jésus propose d'apprendre ici. Et il se pourrait que nous travaillions mieux en empoignant nos projets de cette manière. Il se pourrait même que nous dormions mieux. C'est tout le mal que je vous souhaite. Amen.